France Musique.
Merci Lionel Esparza.
Merci Lionel, on vous retrouve demain en direct de l'hôtel Bedford à Paris.
Tapage nocturne jusqu'à minuit, c'est reparti.
Bruno Le Thor et François Bonnet, Tapage nocturne. France Musique.
Nous recevrons dans ce tapage nocturne Laurent Duru, un compositeur qui dame un chemin aux confluences des musiques dites savantes, taquinant avec malice la musique populaire. Mais ouvrons cette émission avec notre page phonographique et un opus surprenant, celui proposé par Erwan Keravec, qui cartographie depuis longtemps déjà un vaste territoire de la cornemuse. Keravec a fait de son instrument un outil d'exploration musicale, attirant de nombreux compositeurs, sans nul doute aimanté par cette drôle de facture instrumentale qui prend sa source dans la nuit des temps.
Thank you.
To the Heroine de Bernard Cavana, extrait du disque Sonneur d'Erwan Caravec, second volume des collectes que le musicien fait auprès des compositeurs d'aujourd'hui pour élargir le catalogue des possibles sonores. Alors François, vous nous venez avec une nouveauté.
Oui Bruno, je vous propose d'écouter un morceau issu d'une belle nouveauté donc que l'on doit à l'excellent label bordelais Sonoris. Il s'agit d'un coffret de 6 CD présentant tout l'éventail sonore du musicien américain Kevin Drum. Elapsed Time, c'est le titre du coffret, est une compilation de travaux récents de Drum, produit entre 2012 et 2016 et sorti de façon confidentielle, soit en bonus accompagnant des albums, soit uniquement en fichier numérique. Ce qui est frappant à l'écoute de ce coffret, c'est l'extrême diversité de la production de Drum, allant du bruitisme abrasif à une ambiance presque silencieuse, en lorgnant au passage du côté de la musique concrète, et ce de manière aisée, naturelle et étrangement peu abstraite, tant sa musique est chargée de sensations et d'émotions. Nous écoutons un extrait du morceau Erech, Part 1, Kevin Drum, Elapsed Time.
Thank you.
Nous venons d'écouter un extrait du morceau Erage Part 1 de Kevin Drum, sorti sur le coffret Elapsed Time aux éditions Sonoris.
France Musique.
À la tête de son ensemble Lynx, Laurent Duru explore la création sous toutes ses formes, notamment en rencontre avec d'autres disciplines. Il s'amuse à transposer la notion de panoptique à la musique grâce à tous les artifices sonores permis par les nouvelles technologies. Jouant avec les sons, conceptualisant son approche compositionnelle par des formes parfois ludiques, ses pièces révèlent l'univers d'un musicien étonnamment libre dont l'inspiration se nourrit des musiques électroniques les plus pointues, autant que des poètes de la tradition savante. Laurent Duru est l'invité de ce tapage nocturne. Laurent Duru, bonsoir.
Bonsoir.
Alors bien que votre formation se réfère à une certaine tradition, il semble néanmoins que votre credo soit de pousser les cloisons, notamment esthétiques, en établissant des passerelles entre musique populaire et musique savante. Cette classification a-t-elle d'ailleurs pour vous un sens ?
Effectivement, je suis toujours un petit peu gêné par cette appellation musique savante.
Ou sérieuse ?
Encore plus par la musique sérieuse. J'ai du mal à imaginer une musique qui serait pas sérieuse, dans le sens où toute musique a une vocation profonde à émouvoir, à toucher, même la plus légère. Donc je pense que une musique qui serait pas sérieuse, ce serait une musique ratée, en fait. Donc ce serait comme s'il y avait une sorte de jugement de valeur, en fait, avec cette appellation-là. Évidemment, c'est un truc qui ne m'est pas très confortable. Alors après, pour ce qui est du cloisonnement, en effet, notre société aujourd'hui a une forte tendance à vouloir tout mettre dans des cadres, dans des tiroirs, alors que finalement, chaque personne, artiste ou pas, a une richesse intérieure, a plusieurs facettes. Et je ne vois pas pourquoi il faudrait... choisir une facette comme on choisirait une seule devanture de magasin. J'ai vraiment envie de montrer toutes les richesses, ou pas d'ailleurs, mais enfin en tout cas toutes les facettes que je développe dans mon travail, quitte à effectivement quelquefois me retrouver un petit peu entre deux chaises,
et donc du coup avoir des projets qui sont peut-être plus difficiles à identifier, notamment pour des programmateurs ou même un auditeur quoi, lambda. C'est un moyen d'emmener les gens peut-être quelquefois vers quelque chose qu'ils n'attendent pas au préalable.
Bruno Le Thor et François Bonnet, Tapage Nocturne. France Musique.
Développé avec votre frère un duo, comment celui-ci s'articule par rapport à votre écriture pour l'ensemble ? Est-ce que c'est une sorte de laboratoire finalement ?
J'ai mis beaucoup de temps à arriver à écrire pour ce duo. À la base, c'est vraiment un duo d'interprétation de musique contemporaine très classique, parce que pour ce duo piano-percussion, il y a un répertoire très intéressant, avec notamment un chef-d'œuvre, la pièce Contact de Stockhausen, qu'on a joué un certain nombre de fois, et qui déjà, elle seule, suffirait de constituer un tel duo, parce que c'est une pièce qui est absolument fascinante. Et il y a d'autres pièces, Tombeau, Durel, et voilà, un certain nombre de pièces qui ont découlé de ce premier cataclysme de Stockhausen. Donc on a commencé par balayer ce répertoire en allant chercher voilà, les grandes pièces et les plus petites pièces, disons. On n'a pas évidemment tout joué, mais on a exploré. Et la composition prenant de plus en plus de place dans ma vie, j'ai eu envie d'écrire pour le duo. En fait, c'est la Villa Médicis, justement, où peut-être un peu isolé du milieu, des ensembles, et un petit peu distant des commandes, et surtout avec une certaine liberté, où je me suis dit, finalement, j'ai jamais écrit pour moi-même, j'ai jamais écrit pour ce duo, et qu'est-ce que ce serait la musique que je m'écrirais ? J'étais pas du tout sûr d'arriver à quelque chose. On a fait une pièce ensemble qui s'appelle Studi sulla notte, qui est une sorte de pièce hybride avec les arts plastiques. C'est quelquefois ça tend vers l'installation, d'autres fois ça englobe de la performance. Mais en tout cas, la première version, c'était piano préparé et percussion. C'était vraiment la première fois où je composais pour pouvoir me jouer ensuite. Alors c'est un mélange de laboratoire et d'introspection. Quelquefois, ce ne sont pas forcément des choses si expérimentales, mais ça me permet peut-être d'être un peu plus personnel aussi dans le discours.
Modifiquez,
Ce soir, vous nous proposez le projet Hip Hop Algorithme. Comment est né un tel projet ?
Alors, c'est pas arrivé souvent, en fait, que je travaille aussi longtemps sur un projet, et enfin, ou en tout cas de manière répétée, avec des grandes distances entre les moments de travail. C'est donc du coup une pièce qui est un peu complexe à décrire, puisqu'elle elle a vécu plein de stades différents. En tout cas, le moment déclencheur, c'était en 2012, je crois. Je faisais visiter Paris à deux amis scénographes allemands qui étaient de passage, et on s'est retrouvés au Palais de Tokyo dans une expo comme ça, qui partait un peu dans tous les sens. Et à un moment donné, on s'est retrouvés avec, il y avait Joe Starr qui était là, plutôt ivre mort, et qui
Joe Starr
quoi, mais enfin voilà, vraiment Joe Starr là ce soir là et c'était vraiment une bête féroce, lâchée comme ça au milieu d'une horde de gens en délire autour de lui. Enfin, c'était une espèce de performance, c'est-à-dire que il était entouré de deux trois DJ qui étaient là avec leur boîte à rythme, et en fait, toutes les minutes, ils essayaient de lancer une espèce de, comment dire, de puce pour danser. Et systématiquement, Joe Starr, trébuchait sur un truc, ou poussait tout le monde, faisait tout arrêter avant de relancer de nouveau. Et c'était comme une sorte de machine à hip-hop qui n'arrivait pas à se mettre en place, qui était comme enrayée. Et j'étais vraiment fasciné par ce moment. Je suis resté à observer cette scène qui était complètement... Parce que les gens, en plus, étaient hystériques. Enfin, c'était... Et puis alors, je venais de passer la soirée comme ça avec des gens très, très... assez... qui contrôlent vraiment leur comportement. Et donc là, il y a une sorte de choc très fort. Et ça, c'était l'élément de départ. Je me suis dit, il y a dans cette musique quelque chose qui est de l'ordre du bestial et qui m'attire. Et les événements musicaux qui se produisaient à ce moment-là étaient aussi intéressants. Cette espèce de machine qui n'arrive pas à se mettre en route et qui... remâche et redigère toujours les mêmes éléments, mais jamais de la même manière. Donc c'est une des premières choses que j'avais envie de faire, c'est-à-dire de fabriquer une sorte de machine à créer du hip-hop, alors avec tous les guillemets qu'on peut mettre, à partir de n'importe quelle nourriture sonore, on va dire. Donc j'ai commencé par faire ça, par faire plein de petits algorithmes informatiques qui avait pour but de créer une sorte de soit une boîte à rythme, soit une sorte de petit élément mélodique, et qui toujours devait avoir à la fois une sorte de temporalité de répétition qui pouvait le rapprocher de ce type de musique, et en même temps avoir une sorte de chose un peu bancale qui arrive jamais à se mettre en place. Donc ça, c'était vraiment la première étape. On en a créé une partie au festival Villa Aperta à la Villa en 2014. Et puis ensuite, j'ai travaillé pour la création à la Gaîté Lyrique, qui était d'ailleurs le 13 novembre 2013, 2015, pardon, donc le jour des attentats. J'ai travaillé à une autre approche de cette musique, parce que je me suis rendu compte, justement, en travaillant, en écoutant beaucoup cette musique qui m'était quand même assez étrangère, je me suis rendu compte qu'il y avait une vitalité et une force dans l'aspect iconographique de ce monde-là, en fait, qui est plus qu'une musique, qui est vraiment un monde, hein, puisqu'il y a tous les éléments graphiques qui vont avec. Et j'ai trouvé qu'il y avait une, il y avait quelque chose dont je pourrais me nourrir pour la, pour une musique plus plus écrite, peut-être plus expérimentale d'un certain point de vue. Et donc c'est peut-être plus ces matières-là qu'on a assemblées pour aujourd'hui. Donc avec une approche qui est moins geek, on va dire, hein, qui est moins machinesque et qui est plus poétique à certains moments. Ou en tout cas, pour le coup, plus écrit dans son devenir.
Store 8792 KCG Image, 4K CG Raster Data 96 KCG Shared Image, 204K Kernel Alloc, 11K Malloc, 80.7M Malloc, Admin, 48K Memory Tag 242, 12K Memory Tag
Alors vous venez de l'évoquer un petit peu, mais comment articulez-vous ces différentes facettes de la musique que vous explorez, allant de la création contemporaine, on en a parlé, à l'interprétation de musique de répertoire même?
J'ai une vie aussi comme pianiste en parallèle à la composition, donc l'interprétation, elle a sa place à part entière au jour le jour. Ce qui est frappant dans comment ça peut s'articuler, alors je sais pas si c'est exactement ça votre question, comment ça peut s'articuler dans la vie tous les jours. Alors ça se nourrit, et ce qui est frappant, c'est la temporalité, la différence de temporalité entre ces deux mondes. C'est la composition, c'est vraiment une pensée à très long terme. On projette des événements, on a des projets qui se déploient sur 1-2 ans. Le concert ou la performance sont des choses qui peuvent être extrêmement spontanées et qui peuvent s'organiser d'une semaine à l'autre. Donc je pense que c'est assez sain pour l'esprit d'avoir à la fois une sorte de temporalité très longue qui permet d'essayer de construire une progression très lente, en fait, et aussi des choses qui vont être très spontanées et qui, du coup, vont vous permettre aussi d'avoir des choses plus éphémères et, du coup, où vous allez pouvoir prendre peut-être plus de risques. Sauf que là, je suis revenu dans le monde de la composition. Là, pour le piano, il n'y a pas vraiment de prise de risque. C'est là aussi la différence fondamentale avec la composition, c'est-à-dire que le piano... Je me trompe jamais quand je sais que je dois jouer telle ou telle pièce. Je sais exactement combien de temps il va me falloir pour la travailler. Je peux changer d'envie dans ce que je veux en faire, dans l'interprétation, mais je vais toujours savoir comment ça va se passer. La composition, c'est toujours le grand vide, quoi. Et puis on n'en a jamais fini. On a toujours quelque chose à améliorer, quelque chose à retoucher. Donc c'est là où c'est difficile d'articuler les deux, parce qu'il y en a une qui, du coup, a tendance à phagocyter l'autre. C'est ça le gros danger.
Merci beaucoup, en tout cas, Laurent Duru, d'être venu nous voir dans cette émission avec votre ensemble, l'ensemble Lynx.
Merci beaucoup.
Bruno Le Thor et François Bonnet, Tapage Nocturne. France Musique.
Ainsi s'achève ce tapage nocturne. À la technique était ce soir Stéphane Desmond, Clotilde Thomas et Stéphane Touvenin, attaché d'émission Soisic Noël, chargé de réalisation Bruno Rioux-Maillard. Il est l'heure maintenant de retrouver Anne Montaron et ses ailes abrévées.
Retrouvez toute l'actualité musicale sur francemusique.fr.